Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes au chapitre 4. Livre des Actes au chapitre 4 et au verset 1er. Il est écrit: tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du peuple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva environ 5 000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent: par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près de l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer, et ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin. Ils délibèrent entre eux, disant: que ferons-nous à ces hommes? Amen. Amen. On a lu là un texte qui nous raconte ce qui s'est passé lorsque Pierre et Jean, les deux apôtres, se sont mis à publier la bonne nouvelle de Jésus-Christ autour d'eux. Ils disaient que Jésus-Christ était le sauveur du monde venu en chair pour pouvoir accorder à chacun le pardon des péchés, le salut, l'assurance d'aller au ciel et en même temps la guérison. Et juste avant, il s'était passé quelque chose d'extraordinaire. À l'entrée du temple, à l'entrée de la synagogue, il y avait un homme qui avait l'habitude d'être là, un homme qui était boiteux de naissance. Et lorsque Pierre et Jean sont venus à l'heure habituelle de la prière, voilà ce qui s'est passé. Eh bien, cet homme était là et il leur a demandé de l'argent parce qu'il faisait l'aumône, bien sûr, pour pouvoir pourvoir à ses besoins. Et Pierre le regarde et lui dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il le saisit la main droite, il le lève et cet homme fut guéri. Et cet homme s'est relevé, ses chevilles devinrent fermes, il sautait, louait Dieu, il rentra dans le temple. Et ça a étonné tout le monde. Et les gens commençaient à courir, à écouter ce que Pierre et Jean avaient à dire. Et c'est là qu'ils ont commencé à prêcher. Bien sûr, ça a déplu aux religieux de l'époque, puisque ce qu'ils enseignaient, ces apôtres, était différent de ce que eux voulaient croire. Ils avaient le cœur endurci. Et lorsque, ils entendirent tout ce que Pierre et Jean prêchaient, ils les ont saisis et ils les ont mis en prison. Et ils ont commencé à demander des comptes. Mais au nom de qui avez-vous fait ce miracle? Comment ça se fait que vous avez eu cette puissance? D'où est sortie cette puissance? Au nom de qui vous l'avez fait? Et alors, Pierre particulièrement, va commencer à répondre. Il va expliquer: puisque vous demandez, vous me donnez l'occasion de parler. On lui laisse pas beaucoup d'occasion, hein, Pierre, hein, la moindre, il l'a saisi. Et il va commencer à annoncer encore le nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cet homme a été guéri. Et je sais que parmi nous, des personnes ont été guéries par Jésus-Christ. Personnellement, j'ai vécu cela. Et Pierre, il avait vu de multiples guérisons et il va commencer à dire: oui, c'est au nom de Jésus-Christ qu'on peut être sauvé, qu'on peut être pardonné, qu'on peut être guéri. Et ces hommes qui les avaient saisis, qui les avaient jetés en prison la veille, vont être étonnés de quelque chose. Ils vont dire, il est écrit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Ces hommes, ils ont été étonnés de la manière dont ils ont répondu, alors qu'ils étaient entourés de personnes qui étaient contre eux, alors qu'ils étaient comme dans une sorte de tribunal, on les accusait, ils risquaient gros, peut-être ils risquaient de mourir, d'être lapidés, et puis voilà qu'ils ont de l'assurance, peur de rien, ils sont remplis d'assurance. Pourtant, c'est pas des personnes avec une grande éloquence, avec peut-être aussi une instruction particulière, il a pas fait des études d'avocat, Pierre.
pour pouvoir se défendre dans cette situation. Ce n'est pas sa connaissance humaine, d'éducation, d'école qui va lui permettre de répondre. C'est sa connaissance de quelqu'un qui va lui permettre d'avoir cette assurance. Ce qui les a étonnés, c'est l'assurance qu'avaient Pierre et Jean. Et j'aimerais nous poser cette question cet après-midi. Quelle est votre assurance ? Vous allez me dire, c'est telle assurance pour ma voiture, telle autre assurance pour la maison. Quel est le nom de votre assurance ? Et peut-être que chacun pourrait dire, moi je suis assuré à tel endroit. Et on pourrait comparer les contrats, etc. Et dire, moi j'ai telle ou telle assurance. Et pour votre âme, pour votre salut, pour la vie après la mort, quelle assurance avez-vous ? Avez-vous une assurance ? C'est important d'être bien assuré. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pierre et Jean avaient de l'assurance, peur de rien. Pas parce qu'ils avaient, déjà parce qu'ils n'avaient rien à se reprocher, mais surtout parce qu'ils connaissaient quelqu'un. Leur assurance portait un nom, et ce nom c'est la foi. La foi en qui ? C'est quoi la foi d'ailleurs ? La foi, c'est une véritable confiance. Dans Hébreux 11, verset 1, il est dit « La foi est une ferme assurance ». Leur assurance venait de leur foi. Leur foi en qui ? Leur foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire, eh bien, la foi dans ce Jésus qui sauve, ce Jésus qui pardonne. L'histoire de Pierre, la marche de foi de Pierre a commencé un jour où alors il avait pêché toute la nuit. Il s'était mis à pêcher toute la nuit et alors qu'il avait jeté les filets dans la mer de Galilée, le lac de Tibériade ou le lac de Génézareth, peu importe, c'est le même endroit, alors qu'il avait pêché à cet endroit-là, eh bien toute la nuit il n'avait rien attrapé. Et voilà qu'un matin Jésus vient et il se met à prêcher la foule. Ce texte, je ne l'invente pas, cette chose c'est dit dans Luc chapitre 5 à partir du verset 4. Et lorsque Jésus a fini d'enseigner la foule, depuis la barque de Pierre, puisqu'il y avait tellement de monde qui s'est mis un peu en retrait, il a commencé à dire à Pierre, « Va en pleine eau et jette le filet. » Et Pierre va lui répondre, « Tu sais Jésus, on a pêché toute la nuit et on n'a rien pris. » Et voilà que Pierre il va avoir la bonne attitude, il va dire, « Sur ta parole, je jetterai le filet. » Vous pourrez le lire dans Luc chapitre 5, « Sur ta parole, je vais jeter le filet. » Et alors il y va, il exécute, il n'est pas qu'un homme de fausse parole, et au contraire c'est un homme de parole, et il va faire ce qu'il a dit, il va jeter les filets, et qu'est-ce qui se passe ? Il revient bredouille, non ? Qu'est-ce qu'il passe ? Pierre va faire ce que Jésus lui a demandé, il obéit tout simplement, après avoir écouté l'enseignement, il dit bon, ben on va essayer, sur ta parole, je vais obéir, et voilà que les filets se mettent à être remplis de poissons, mais pourtant on pêche la nuit. Pierre était un expert dans la pêche. Et s'il n'avait rien attrapé, c'est que, eh bien, il n'avait pas beaucoup de poissons à ce moment-là, mais Jésus fait un miracle là, et veut toucher le cœur de Pierre, veut se révéler à Pierre particulièrement. Et Pierre va voir que ses filets vont être remplis au point que sa barque enfonce, au point qu'il est en péril. Il va faire signe à ses amis, c'est écrit, ses amis vont venir une deuxième barque, et les deux barques vont être remplies au point que les deux enfoncent. Et à ce moment-là, Pierre va être touché dans son cœur. Il va comprendre que Jésus, c'est pas un beau parleur, c'est pas un beau discoureur, mais c'est quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un qui peut pardonner les péchés. Comment je le sais ? Puisqu'au moment où les barques enfoncent et quand Pierre voit ça, il est écrit « Quand Pierre, Simon-Pierre vit cela, il tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur ». Face à Jésus, face à ce miracle, d'un coup, les yeux de Pierre s'ouvrent. Mais Jésus n'est pas un être commun, du commun des mortels, un homme comme les autres. Jésus est exceptionnel. Et ce qu'il a prêché, ce qu'il a dit, comment être sauvé, parce que Jésus prêchait le royaume de Dieu, il prêchait eh bien, le pardon des péchés, il disait « Repentez-vous, convertissez-vous, et vous aurez le pardon de vos péchés ». Et Pierre, alors qu'il avait entendu ça, il a peut-être cru, il a peut-être dit « Oui, c'est un beau discours », mais quand il a vu le miracle, il a compris que Jésus n'était pas comme les autres. Jésus était vraiment celui qui avait les clés du pardon, les clés du ciel, les clés du salut. Et il va se mettre à genoux et il va dire « Retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Il est dit « Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. » Jésus, qu'est-ce qu'il va dire ?« Ah, tu as raison d'avoir peur de moi. » Je suis venu pour te juger, tu vois, je suis bien celui qui peut pardonner, et bien maintenant je ne te pardonne pas, tiens, non, pas du tout. Jésus, il va lui dire, ne crains point. Et peut-être que quelqu'un est dans cette situation, il n'a pas encore compris que Jésus était venu pour pardonner les péchés, parce que la volonté de Dieu, c'était de sauver les hommes. Peut-être que dans l'histoire que vous avez parcourue, peut-être pas comme Pierre, mais dans votre enfance, vous avez vécu les choses de Dieu comme, avec la personne de Dieu comme un père fouettard, quelqu'un qui vous faisait peur. Tu sais, tu as fait ça, tu mérites l'enfer. Je connaissais une maman qui disait toujours à sa fille, tu as le diable en toi. Ah, c'est bien ça. Tu as le diable en toi, tu es un démon, etc. Parce que le petit enfant, la petite fille, eh ben, faisait des bêtises. Ça peut arriver qu'une petite fille fasse des bêtises, qu'il y a des enfants. J'en ai, et je peux vous dire, les enfants, ça peut faire des bêtises. Mais voyez, peut-être qu'on vous a présenté Dieu comme quelqu'un qui veut vous châtier. Oh, si tu fais pas ci, Jésus va te punir. Combien de personnes j'ai entendu? Et j'ai dit, mais écoutez, c'est pas l'évangile, ça. Quel aspect, quelle vision de Dieu vous avez? Qui est Jésus pour vous? Un petit Jésus dans une crèche? Non, c'est le grand Jésus. Et même si on lui doit respect, même si Pierre a eu raison de tomber à ses pieds, il n'a pas eu raison d'avoir peur. Parce qu'en vrai, Jésus était venu pour sauver. Jésus a vérifié. Et d'ailleurs, il va lui dire, maintenant toi, qui es pardonné puisque tu as confessé ton péché, maintenant toi, tu seras pécheur d'homme. C'est-à-dire, tu vas amener d'autres personnes à être pardonnées de leurs péchés. On voit aussi que Pierre a vraiment rencontré celui qui pardonne les péchés parce que juste avant ce récit qu'on a lu, eh bien, Pierre va regarder les personnes au moment où il va prêcher, juste après le miracle. Il va dire, vous aviez renié le saint et le juste. Et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. C'est dans Actes chapitre 3, verset 14. À un moment, Pierre, il explique l'évangile et il dit aux gens, vous avez renié Jésus-Christ. Et moi, je dis, mais est-ce que tu n'as pas oublié ce que tu as fait juste avant quand même? Il y a 40 jours ou il y a 50 jours, qu'est-ce que tu as fait, Pierre? Eh bien, toi aussi, peut-être un peu plus, toi aussi. Et tu ne l'as pas fait qu'une fois, tu l'as fait trois fois. Avant que le coq ne chante deux fois, tu me renieras trois fois. Et Pierre avait renié celui qui avait pris avec lui, qui l'avait pris avec lui pour l'enseigner, pour lui montrer des choses extraordinaires. Qui aurait aimé vivre ce que Pierre a vécu? Bon, voir les miracles que Pierre a vécu, entendre Jésus prier, comment il priait, le voir être exaucé tout le temps, ce modèle de sainteté, de justice, d'amour, quand il voit les gens amener cette femme pour dire « Vois cette pécheresse, voilà ce que dit la loi de Moïse, et toi que dis-tu » Bien que le premier qui a péché lui jette la première pierre. Et puis juste après, il va dire « Moi non plus, je ne te condamne pas, va, ne pêche plus. » Et Pierre a vu ces choses, Pierre a été témoin et pourtant, il a renié Jésus. Ça, j'aurais pas aimé le voir. Là, j'aurais pas aimé être à la place de Pierre. Renier même avec des imprécations, ça veut dire des jurons, en souhaitant le malheur de Jésus, pour bien appuyer qu'il ne connaissait pas Jésus, dans son mensonge en plus. Et là, Pierre, il fait la pire chose qu'il aurait pu faire, qu'il a fait de sa vie peut-être. Et pourtant, juste après, Jésus va le rejoindre après sa résurrection et lui dire, « Pierre, m'aimes-tu ? » Oui, je t'aime, Pierre, m'aimes-tu ? Oui, je t'aime, Pierre, m'aimes-tu ? Tu sais toutes choses, trois fois. Comme pour lui rappeler les trois fois qu'il a renié, mais non pas pour le condamner, mais pour lui dire maintenant, paie mes agneaux, deviens pasteur. C'est un peu ça, hein ? Paie mes agneaux, sois le berger, prêche la parole, prêche que je pardonne, toi qui vis maintenant le pardon. Pierre est témoin, il a la foi et l'assurance que Jésus est celui qui pardonne les péchés. La deuxième chose que Pierre pouvait croire de tout son cœur, comme je l'ai dit juste avant, c'est que Jésus est celui qui guérit. Jésus sauve, Jésus pardonne, mais aussi Jésus guérit. Dans Actes chapitre 3, verset 2, vous pouvez le prendre avec moi si vous avez une Bible, sinon je le lis. Il est dit, Actes chapitre 3, verset 2, « Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait, qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, c'est ce que je vous ai raconté, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. » Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, et louant Dieu. Il a tout appris d'un coup, lui. Il marche, il saute, et il loue Dieu, parce que quand Dieu fait quelque chose, il le fait à la perfection, lorsque c'est fait au nom de Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Et j'imagine la vie de cet homme transformé. Cet homme qui, tous les jours, à cause de sa maladie, il était là, boiteux de naissance. Boiteux. Il n'a jamais bien marché. Il n'a jamais appris à bien marcher. Il ne sait pas marcher. Il ne sait encore moins courir. Il ne sait pas sauter. comme il le faut, et il ne sait pas faire toutes ces choses avec ses jambes, se servir, il ne peut pas se porter comme cela. Peut-être il avait une canne, j'en sais rien comment il était, mais tous les jours obligé de faire l'aumône. Parce qu'aujourd'hui, autrefois, il n'y avait pas la sécurité sociale, avec toutes les aides pour compenser l'handicap permanent. C'est une bonne chose aujourd'hui, merci Seigneur pour les avantages qu'on peut avoir, les compensations qu'on peut avoir, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et cet homme était obligé d'aller tous les jours faire l'aumône à l'entrée du temple. Et même quelque chose, il ne pouvait pas rentrer dans le temple, puisqu'il avait un défaut corporel. Et la loi interdisait aux gens de rentrer dans le temple. Et voilà que quelqu'un qui connaît Jésus passe par là, Pierre, Jean, ils viennent, ils arrivent, et qu'est-ce qui se passe? Cet homme qui tous les jours vient, et tous les jours demande, sûrement que des gens commencent à lui dire, écoute, t'as pas autre chose à faire. Tu veux pas changer d'endroit parce que ça dérange les gens qui demandent de l'aide. C'est vrai? Et peut-être que cet homme était mis de côté dans la société, un moins que rien, plus de valeur. Je suis sûr que son corps était meurtri, mais aussi son cœur était blessé et malade. Et là, en un instant, à cause du beau nom de Jésus-Christ, voilà que Pierre, qui a la foi, qui a l'assurance, parce qu'il a déjà vu des centaines de fois, peut-être des milliers de fois, je peux dire des milliers sans me tromper, des milliers de fois où il a vu Jésus imposer les mains aux malades, faire l'onction d'huile aux malades et que les gens puissent être guéris. Jésus a déjà fait tant de miracles, des foules entières, il allait dans un village et il est dit que quelquefois tout le village était guéri. Tout le village, tous les malades étaient apportés, ils étaient tous guéris. D'autres fois, Jésus n'a pas pu faire ce qu'il voulait, uniquement pour une chose. Il dit parce qu'ils n'avaient pas la foi. Il put faire beaucoup de miracles ici parce qu'il ne trouva pas la foi. Et c'est la seule chose qui peut retenir Dieu, la foi. Mais Pierre est plein de foi, plein d'assurance, il connaît Jésus-Christ. Et même s'il est parti dans le ciel, il sait ce qu'il a fait du haut du ciel, on va le voir juste après. Et Pierre, il dit au nom de Jésus, lève-toi, marche. Et cet homme non seulement marche, lui qui n'a jamais marché, il va sauter, il va rentrer dans le temple, lui qui ne pouvait pas y rentrer. Et il va louer Dieu parce que non seulement son corps est guéri, mais je suis sûr que son cœur est guéri. Enfin quelqu'un qu'il aime au point de prendre soin de lui, de pourvoir à ses besoins, non pas juste avec une petite pièce comme avec pitié, comme avec mépris, peut-être, allez, je te donne la pièce, j'ai pitié de toi, mais comme amour, plus que de la pitié, de l'amour. Et là, il est là, le cœur guéri, va pouvoir louer Dieu. Merci Seigneur, racontez ce que Dieu a fait pour lui, ce que Jésus a pu faire dans sa vie, parce que quelqu'un lui a parlé de Jésus. Quelques mots, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi. Et marche. Et cet homme se lève. La troisième chose que dont Pierre était convaincu, ce pourquoi il avait la foi et l'assurance, c'est que Jésus est celui qui peut remplir un cœur de sa présence. On appelle ça baptiser dans le Saint-Esprit, plonger dans l'Esprit de Dieu, être rempli, environné de la grâce, de la présence de Dieu. Peut-être des personnes se sentent seules cet après-midi et disent, mais moi dans ma vie, j'ai bien une religion. Je crois bien que Jésus est venu un jour sur la terre, même qu'il est mort, qu'il est ressuscité, mais je ne le connais pas plus que ça, puisque lui il est dans le ciel et moi je suis sur la terre. Et peut-être quelqu'un cet après-midi se dit, mais comment connaître Jésus? Mais moi je ne sais pas, Jésus il est là-haut, moi je suis en bas, on est si loin l'un de l'autre. Et peut-être que votre religion ne vous a pas permis de connaître personnellement Jésus-Christ. Et Jésus il a dit avant de partir, eh bien je vous enverrai le Saint-Esprit, cette promesse. Et vous avez vu, il y a un décalage, on a commencé acte 4. On a parlé d'acte 3, et là c'est acte 2. Si vous lisiez acte 2, vous verrez eh bien, l'expérience de la Pentecôte. Vous savez, ce n'est pas juste une fête la Pentecôte. Hein. La Pentecôte, c'est un événement extraordinaire. À cause de la croix, Dieu a pu envoyer de son esprit, de sa présence, de sa grâce, de sa paix, de sa joie, de son amour, dans le cœur des hommes et en abondance, au point de faire jaillir des cœurs comme une source. C'est ce que dans Jean 7, il est écrit, il est dit... Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Il disait cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient. Quelqu'un peut-être a une vie sèche. Il dit, mais moi je suis tout seul. Personne dans mon problème. Je crois bien en Dieu, je fais quelques prières quelques fois, mais j'entends rien, je crois rien. Il y a comme un mur de plomb sur ma tête. C'est comme tout sec à l'intérieur de moi. Ma religion ne m'apporte rien. J'aimerais vous dire que Pierre avait plus qu'une religion. Il avait la connaissance et la présence du Seigneur Jésus. Et Pierre était le premier à la Pentecôte, à prendre la parole, à dire, vous savez ce qui nous arrive? Ce baptême du Saint-Esprit, eh bien c'est la promesse que Jésus avait faites, parce que Dieu tient toujours ses promesses. Pourquoi Pierre avait de l'assurance ? Parce que toutes les promesses, toutes les paroles de Jésus s'accomplissent à la lettre, c'est sûr. La Bible n'est pas un livre comme les autres. La Bible, d'ailleurs, n'est pas juste un livre. La Bible, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un dira, la Bible, c'est une carte au trésor. Cherchez la croix, vous trouverez le trésor. Toutes les paroles de Jésus s'accomplissent. La promesse sur le Saint-Esprit s'accomplit. Jésus est celui qui envoie le Saint-Esprit. C'est pourquoi après, lors d'un voyage, Pierre avec Jean va pouvoir passer. Et puis, alors que des personnes avaient cru en Jésus, il pourra prier pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et peut-être quelqu'un a déjà fait la paix avec Jésus. Il a déjà fait une démarche avec le Seigneur. Il a déjà vécu peut-être même une guérison dans son cœur. J'aimerais vous dire, cherchez la présence de Dieu. Cherchez la face de Dieu. Si vous vous mettez à genoux, vous priez. Se mettre à genoux, ce n'est pas forcément physique. C'est surtout une attitude de cœur. Se mettre à genoux, c'est d'abord et avant tout s'humilier devant le Seigneur et dire, tu sais Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu vois mon problème, tu vois mon souci, tu vois mon besoin, tu vois ma solitude. Tu connais ma situation, s'il te plaît. Viens m'inonder de ta présence, afin que même dans mon cœur, il y ait une joie, il y ait ta présence qui jaillisse au point que même les autres, ils remarquent qu'il y a quelque chose de différent en moi. Viens me remplir de toi, me remplir de ta présence et de ta joie. Et le Seigneur va le faire, puisque c'est une promesse. Une autre chose dont Pierre était sûr, et dont il avait la foi, c'est ce Jésus qui revient bientôt. Et je priais, je dis, Seigneur, montre-moi encore que c'est toi qui m'inspire ce message. Et à ce moment-là, il y a Michael qui dit, l'assurance, mes oreilles s'ouvrent à un moment, il dit, on a l'assurance que Jésus va revenir. Il nous prépare une place et il revient bientôt. Pierre était sûr et il attendait le retour du Seigneur Jésus. Il avait eu cette parole et maintenant c'est acte 1. Dans acte 1, chapitre 1, verset 7 à 11, et particulièrement au verset 9, je crois, il est dit, après avoir dit cela, après avoir enseigné, Jésus fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc, deux anges, leur apparurent, et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ailleurs, dans Jean chapitre 14, verset 1, Jésus va dire quelque chose de très important pour nous cet après-midi. Il va dire que votre cœur ne se trouble point. Peut-être quelqu'un a le cœur troublé, mais qu'est-ce qui va m'arriver demain? De quoi demain sera fait? Et qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va m'arriver? Comment ça va se passer? Jésus va dire que votre cœur ne se trouble point. Comment? Croyez en Dieu. Croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez, vous aussi. Le bonheur de Jésus-Christ, c'est pas juste d'aider des hommes sur la terre et de les laisser après, et de les laisser tomber, c'est pas juste de sauver des personnes, c'est de les avoir avec lui. Vous savez comment Jésus a formé les disciples? Il les dit, il les prit avec lui. Il a pris les 12 apôtres avec lui. Ils vivaient jour et nuit avec eux. Ils allaient de lieu en lieu ensemble. Ils partageaient le ministère ensemble. Jésus était le modèle parfait, sans faille. Et les disciples, ils étaient à l'école de Jésus-Christ. On appelle ça un disciple. Et le bonheur de Jésus-Christ, c'était d'avoir les apôtres avec lui. Et encore aujourd'hui, son bonheur n'a pas changé. Le bonheur de Dieu n'a pas changé. C'est d'avoir les hommes près de lui, dans sa présence par son esprit, mais aussi près de lui pour l'éternité dans le ciel, lorsque notre parcours sur cette terre s'achèvera. Vous avez tous compris que votre vie avait une limite, avait une fin? On a tous réalisé? Bon, ce matin vous le disiez, nous on passe, ça c'est sûr. La parole de Dieu passe pas. Mais nous on passe. Notre vie, c'est quoi face à l'éternité? Un petit point sur une ligne. C'est rien du tout. La Bible va dire que la vie, c'est comme la fleur. Elle vient et puis elle sèche. Comme l'herbe, pareil. Elle vient, elle fane, l'herbe, elle pousse et elle sèche. La vie de l'homme, c'est très court, comme une vapeur qui paraît et qui disparaît. Et c'est vrai que la vie est courte, bien trop courte des fois, parce que ceux qui nous sont chers nous sont enlevés, ils partent. Mais le problème, c'est pas combien de temps on va être sur la terre. Le problème, c'est comment on va utiliser ce temps qui nous est imparti pour se préparer à l'éternité. C'est vraiment ça, la clé. Et Pierre, lui, savait quelque chose. c'est qu'un jour Jésus viendrait le chercher. C'est qu'un jour Jésus reviendrait. Oui, la terre va mal, ça c'est clair. On entend des bruits de guerre partout. On entend des soucis climatiques partout. On entend des choses, des inondations, des choses, des tremblements. Il y a de tout sur la terre. Et on voit que la terre, elle va mal et ça n'a pas l'air de s'arranger. Même si on veut être à fond écolo, ça n'arrange pas grand-chose. On voit que le problème, il n'est pas dans la matière, il est dans le cœur de l'homme. Et c'est là que Jésus veut opérer. Et Pierre a remarqué quelque chose, il a dit, il croit et il sait. Il a vu ses anges lui parler, lui dire, vous savez, la manière dont il est parti, il va revenir de la même manière. Alors allez, parlez, racontez tout ce que vous avez vu. Répandez la bonne nouvelle, Jésus pardonne tous les péchés. Tous, ah bon? Mais moi, vous ne savez pas ce que j'ai fait, pasteur. Vous ne savez pas? Je me souviens, à la prison de Draguignan, on parlait, on annonçait que Jésus pardonnait les péchés, et un homme, il a dit, mais moi, j'ai violé une femme. Est-ce que Dieu peut me pardonner? Et il pleurait. Il pleurait. Est-ce que Dieu peut me pardonner? C'est dur. C'est horrible. C'est grave. Il dit, si je demande pardon de tout mon cœur, est-ce que je peux être pardonné? Vous croyez que c'est pardonnable? La Bible nous dit que c'est pardonnable. Le brigand sur la croix, il avait tué. Est-ce que c'est pardonnable? D'avoir fait du mal à quelqu'un au point de lui ôter la vie? Même ça, c'est pardonnable? Bien sûr. Et le mensonge, c'est pardonnable? Bien sûr. Et tous les péchés? Pourtant, à nos yeux, il y en a des plus gros, des plus petits. Et certains peuvent dire cet après-midi, je ne sais pas qui est là, je ne connais pas vos vies. Peut-être ça s'adresse à quelqu'un qui dit, mais mon péché est trop grave. Je ne peux pas être pardonné. Mais Jésus pardonne et sauve tous les pécheurs. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a payé cher. Ce que Pierre savait, ce dont il était convaincu parce qu'il l'avait vu de ses yeux, c'est que Jésus a payé pour le péché de tous les hommes. Pierre avait vu Jésus mourir sur la croix. Et si pour d'autres c'était juste une histoire qui se racontait comme nous aujourd'hui, lui il pouvait avoir de l'assurance, vous savez pourquoi? Parce qu'il avait vu Jésus aller jusqu'au bout par amour pour nous. Jésus il est venu sur la terre, il s'est incarné dans un corps d'homme, humblement, dépouillé de sa gloire. Il a fait des miracles pour montrer l'amour de Dieu qui voulait bénir, sauver les hommes, qui ne voulait pas laisser les hommes dans leur péché, dans leur culpabilité, dans leur misère, dans leur maladie, dans leur détresse, dans leur solitude. Et il est venu nous rencontrer, Dieu est venu nous rencontrer. Jésus, il est appelé aussi Emmanuel, Dieu avec nous, il est venu. Et Pierre a vu Jésus faire ses miracles, tout cela, mais aussi Jésus aller jusqu'à la croix. La croix, c'est quoi? C'est pas juste quelqu'un qui paie pour ses péchés, pour ses fautes, ou quelqu'un qui est condamné juste injustement. C'est le Fils de Dieu qui porte les péchés du monde entier. Parce que c'est grave le péché. Le plus petit péché à nos yeux est quand même grave parce qu'il nous ferme la porte du ciel. Rien de souillé ne rentrera dans le ciel. Et le moindre mensonge, le moindre péché, il tache et souille notre âme et notre cœur. Et du coup, on ne peut pas rentrer au ciel. Mais Jésus, ce qu'il a fait, parce qu'il nous aimait, il est venu, il s'est chargé de tous nos péchés, il les a cloués sur la croix, il a payé pour les péchés, il est lui-même mort, il est allé jusque dans le séjour des morts, mais il a triomphé, il en est sorti avec les clés du séjour des morts, parce que lui n'a jamais péché. Il n'est pas mort pour ses péchés, il est mort pour nos péchés. Et quiconque croit que c'est pour ses péchés que Jésus est mort, parce qu'il l'a tant aimé qu'il a donné sa vie, parce que Dieu l'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, alors celui-là, il ne va pas en enfer. Il ne paiera pas pour ses péchés. S'il demande pardon à Dieu, s'il se repent, c'est-à-dire qu'il abandonne sa vie actuelle, sa manière de vivre pécheresse, et s'il accepte, eh bien, le pardon de Jésus-Christ par la foi, tout simplement. Pierre croyait à ce Jésus qui sauve, Pierre croyait à ce Jésus qui guérit, parce qu'il l'avait vécu, il l'avait vu, il avait été un instrument de guérison lui aussi. Moi-même, j'ai été guéri dans mon enfance, j'ai été guéri à plusieurs reprises d'ailleurs, j'ai vécu la guérison dans ma famille. Je me souviens de l'hépatite B, j'étais atteint d'hépatite B, et puis rien n'y faisait, et suite à la prière, j'ai été guéri, et je sais que Jésus guérit, comme Pierre savait que Jésus guérissait. Et si quelqu'un est malade, peut-être qu'il peut s'approcher, comme il a été prié par tout à l'heure notre frère M. Blanc. Seigneur, manifeste ta présence, guéris des personnes malades. Vous croyez encore à la guérison? Il y en a qui croient. Alors s'il y en a qui croient, on peut le vivre, parce qu'il suffit de la foi pour hériter des promesses. C'est simple avec Dieu. Et Pierre était convaincu que Jésus guérissait. C'est pour ça qu'il pouvait dire au nom de Jésus, lève-toi. Et puis il croyait que Jésus pouvait remplir un cœur vide, un cœur sec, de cette eau jaillissante, l'eau vive, eau bénissante du Saint-Esprit, Jésus peut remplir du Saint-Esprit une personne qui se sent seule, le remplir de sa présence pour que plus jamais il se sente seul, pour qu'il puisse communier avec Dieu tout le temps. Et oui, c'est ça. Et puis Jésus, il revient bientôt, c'est ce que Pierre croyait. Et il disait ceci, je suis sûr que dans ses préparations, d'ailleurs, une des épîtres de Pierre nous dit ceci, oui, ne croyez pas, comme les autres, que c'est des mensonges hein, que Jésus va revenir. Et Jésus ne tarde pas, c'est pas qu'il tarde. Qu'est-ce qu'il fait ? Il veut que tous soient sauvés et parviennent à la repentance et soient sauvés. Il voudrait que tous les hommes soient sauvés. C'est pour ça que Dieu est patient et que Jésus n'est pas encore revenu. Mais un jour viendra où la patience de Dieu arrivera à son terme. L'amour de Dieu est infiniment grand, ça fait plus de 2000 ans qu'il attend. Ça, c'est de la patience. Mais combien de temps encore ça va durer ? Moi, j'en sais rien, je ne peux pas vous dire. Comme le disait déjà Pierre, le temps est court, et je crois que le temps est court. Et Jésus peut revenir. Est-ce serons-nous prêts ? Et au-delà de son retour sur la terre, est-ce que nous, déjà dans notre cœur, on est prêts ? Parce que qui peut dire de quoi demain sera fait ? Qui peut dire demain je ferai ceci ou cela ? C'est écrit, hein ? On dit tous, on fait des plans, des projets, je vais faire ci, je vais acheter une maison, je vais bâtir, je vais faire ci et ça et ça, je vais aller en vacances, je vais aller visiter cette chose. Mais qui peut dire combien de temps va durer sa vie ? Vous savez, et je ne veux pas faire peur, ça ne sert à rien. Simplement nous dire, ne jouons pas avec notre vie. La vie est un cadeau de Dieu, fait pour se préparer à le rencontrer, pour passer l'éternité auprès de lui, c'est ça son bonheur. Mais le seul moyen, c'est de d'abord avoir été pardonné de tous nos péchés grâce à Jésus-Christ et à sa mort sur la croix, son amour qui l'a poussé à se donner pour nous. J'ai commencé avec une question, quelle est votre assurance ? Et peut-être on pourrait réfléchir, quelle est l'assurance qu'il propose ? Un sauveur qui a payé de sa propre vie, qui a souffert, qui a versé son sang pour effacer les péchés, comme le prix, la preuve que sa vie a été donnée pour racheter notre vie, pour permettre l'accès au ciel. Qui peut dire, mais moi j'ai l'assurance dans ma religion c'est la meilleure. Moi, je crois qu'aucune religion peut nous donner accès à Dieu, c'est une personne. Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dira qu'il y a un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Et c'est bien parce que c'est gratuit. Des fois, les assurances coûtent cher, mais lui, Jésus, il donne tout gratuitement. Ça s'appelle la grâce. C'est merveilleux, la grâce. De pécheur qu'on est, on peut être sauvé, gracié, et même un privilège extraordinaire, devenir enfant de Dieu, au travers de Jésus-Christ, simplement pour prix de notre foi. On va incliner nos fronts. C'est là les piliers de l'Évangile. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise de l'Esprit et Jésus revient bientôt. Et ce n'est pas juste une théologie, ce n'est pas juste une leçon, ce n'est pas juste quelque chose de bien appris, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement, que je crois de tout mon cœur, que je veux vivre encore chaque jour, je veux faire des expériences. Et comme Pierre a été pardonné plusieurs fois, je crois que Dieu pardonne plusieurs fois. Et quelqu'un peut-être a perdu l'assurance dans son cœur parce qu'il s'était approché un moment et la vie, les tentations l'ont emmené loin de Dieu, les soucis de la vie, les autres choses, le découragement, les avis des autres l'ont influencé et quelqu'un a peut-être perdu son assurance, perdu la foi. Oh, le Seigneur, il nous dit qu'il ne se lasse pas de pardonner, qu'il ne se lasse pas de sauver et qu'il redonne de l'assurance à celui qui l'a perdu s'il est prêt à s'abandonner à nouveau dans les mains de Jésus. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise, Jésus revient. C'était là ce qui donnait de l'assurance à Pierre. Pierre aurait pu être lapidé dans les minutes qui ont suivi. Mais Jésus est fidèle. Il a été gardé parce qu'il avait encore un travail à faire sur cette terre. Et plus tard, bien sûr, qu'il est parti de cette terre, mais il n'est pas parti pour le grand trou noir, comme quelqu'un le dise. Il est parti pour le ciel, parce que Jésus prépare une place à ceux qui croient en lui. Et il vient les chercher. Pierre est parti au ciel, Pierre est parti auprès de Jésus dans le paradis. Et nous aussi, Dieu nous invite au paradis. Il dit le chemin, c'est Jésus. Croyons-nous, croirons-nous en ce Jésus qui nous a tant aimé au point de donner sa vie ? Ou préférerons-nous une religion, une belle religion, une signature sur un feuillet, sur quelque chose, un registre ? Préférerons-nous une religion ? Je ne prêche pas une religion cet après-midi. Je prêche Jésus-Christ, ce sauveur de l'humanité. J'aime pas les guerres, les conflits de religion, je préfère la parole de Dieu. C'est elle la vérité. Cette carte au trésor. Trouvez la croix de Jésus et vous trouverez le trésor. C'est Jésus-Christ, cette personne qui peut faire tant de choses pour nous, venir dans nos besoins, pourvoir à tous nos besoins. Il est dit qu'il a été tenté en toutes choses et qu'il peut venir à notre besoin. Alors approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Cet après-midi, Jésus veut pardonner vos péchés. Croyez et acceptez. Approchez-vous de Jésus par la foi. Jésus peut guérir. Quelqu'un est malade, approchez-vous, on va prier pour vous et je crois que Jésus va vous guérir. Quelqu'un peut-être a besoin d'être renouvelé ou rempli de la présence de Dieu, consolé dans son cœur par le Saint-Esprit. Approchez-vous aussi, le Seigneur peut le faire. Et quelqu'un a peur du lendemain, a peur, peut-être peur de ce qui va lui arriver dans l'éternité. Vous pouvez aussi vous approcher, Jésus vous montrera et vous rappellera, vous convaincra qu'il vous prépare une place parce que vous lui demandez, souviens-toi de moi lorsque tu entreras dans ton règne. Comme ce brigand qui l'a demandé une simple prière, Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ce sera peut-être votre prière, Seigneur Jésus, j'ai compris que j'étais pardonné, mais j'ai encore peur, bannis la crainte, montre-moi combien tu m'aimes au point de me préparer une place. Dis-moi que j'ai ma place au paradis. Et le Seigneur le mettra dans votre cœur. Il vous montrera encore que vos péchés sont pardonnés et que à tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, eh bien, ils ont leur place auprès de Dieu qui nous a tant aimés. Amen. Seigneur, merci pour ta paix, ta joie que tu veux répandre dans nos cœurs, pour ce pardon, pour cette guérison que tu veux répandre, pour cet esprit que tu veux manifester et répandre dans nos vies encore. Merci pour ton retour glorieux. Merci pour cette assurance que lorsqu'un enfant de Dieu décède, part de cette terre, il s'en va avec toi dans le paradis. Merci pour cette prédication, ce moment où on peut se repasser ces choses dans la tête si on les connaît, qu'on peut découvrir ces choses si on était ignorant de tout cela. Merci Seigneur pour cette bonne nouvelle de l'évangile qui nous donne de l'assurance lorsque les situations ne nous sont pas favorables, lorsqu'on est dans une tempête, lorsqu'on est dans un moment difficile. Oui, comme Pierre qui avait de l'assurance, nous voulons nous aussi cette assurance, cette foi. Et nous croyons qu'elle vient lorsqu'on accepte ta parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de ta parole, Jésus. Alors merci de confirmer ta parole cet après-midi, comme tu l'as fait pour Pierre qui a pu voir la multiplication des poissons. Et Seigneur, manifeste-toi dans la vie de ceux qui s'approcheront de toi, uniquement par la foi et simplement, comme un enfant qui s'approche de toi. Amen.